Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki.
Oui, il est 10h03, bonjour la France et bienvenue sur Europe 1. Philippe Vandel vient de nous faire un coucou, ça s'est passé sur le live d'Europe1.fr. On est vraiment friendly, hein. Il y a quelque chose de beau dans cette radio. Mais oui, bonjour la France et l'autre actu du matin, vous le savez maintenant. 2 heures d'infos, de bonne humeur et de musique aussi. Je suis Daphné Burki, à votre service. Bonjour la France et bonjour Ariel Wiesmann. Eh bien non, toujours pas. Ariel n'est pas là, mais... pour notre plus grande joie, notre plus grand bonheur. C'est le journaliste Bruno Donnet que vous retrouvez d'ailleurs tous les week-ends à 7h20 pour la revue de presse.
À 8h35 malheureusement.
À 8h35 exactement.
Bonjour, la France a peur.
Et chaque minute compte. Merci Bruno d'être avec nous. Vous nous parlerez évidemment du mot en tête de gondole de l'actualité. Bonjour la France et bonjour Mathilde Terrier.
Bonjour, bonjour la France qui aime la pub.
Ah, elle va nous en parler de la pub. Vous allez voir au sommaire de la pub au théâtre. Mais oui, vous êtes notre petit reporter. Bonjour la France et bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour. La France,
oui, c'est vrai qu'on a cette chanson en tête, je crois que ça va revenir régulièrement. Eh ben oui, Bertrand nous livre ses infos, what the fuck.
What the fuck.
Les infos complètement dingues, mais qui pourraient changer le monde. Et bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour la France et bonjour le public.
Elisabeth qui s'intéresse à notre vie quotidienne, conso, éco, croco, électro, rien ne lui échappe. Et chaque jour dans l'émission, on accueille un camarade de jeu. Aujourd'hui, mardi, c'est Didier Porte, l'humoriste. Didier Porte qui dresse le portrait de notre invité. Et nous, on se redresse en général sur nos chaises. Bonjour la France, jusqu'à midi, en direct et en public. Merci d'être avec nous dans le studio. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas aussi à nous suivre, n'hésitez pas à nous regarder et nous suivre sur le live d'Europe1.fr. Alors au sommaire, aujourd'hui, notre reportage à la télé, à la radio, au cinéma, dans la rue, dans le métro, la publicité est partout et désormais, en effet, elle s'invite aussi dans les salles de théâtre privées. Comment cela va-t-il se passer? Comment réagissent les spectateurs? Mathilde Terrier a enquêté.
On peut aussi mettre de la publicité dans les églises. Je dis pas que le théâtre est un endroit sacré, mais c'est quand même un endroit où on vient avec une certaine concentration pour être en communication avec des êtres vivants. Et je trouve que ça, c'est quand même un barrage.
Le dossier du jour, alors que l'iPhone 8 et 10 seront dévoilés ce soir, un autre écran, beaucoup plus grand, broie du noir. Notre bon vieux poste de télévision voit ses ventes s'effondrer. Comment les distributeurs tentent de limiter la casse? On va tout vous expliquer. Et notre invité aujourd'hui, Césarisée, pour son rôle dans The Artist. Elle sera demain à l'affiche du film Le Redoutable, une plongée dans la nouvelle vague à travers celui qui a marqué cette époque, Jean-Luc Godard, Bérénice Bejo et notre invité. Mais avant cela, j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire sur ce son. Vous vous souvenez? Beyoncé et Shakira, Beautiful Year. Alors là, on me regarde avec des grands yeux. Si, si, le public reconnaît ce titre. C'était un tube il y a exactement 10 ans. On dansait dessus en club, en tapotant sur les claviers de nos premiers iPhones pour se connecter sur MySpace. Ça paraît vieux, dit comme ça.
Ouais, MySpace. Mais il y avait encore Caramel.
Oui, ah oui.
C'était l'époque Caramel.
La messagerie Caramel. Et qu'est-ce qu'on portait? On portait du American Apparel. Vous connaissez American Apparel? C'est la marque de sportswear aux couleurs un peu flashy et aux coupes près du corps, fabriquée à Downtown LA, bon, à Los Angeles, quoi. Alors je me rappelle encore de Bruno Donnet, qui écrivait ses éditos en collant couleur abricot, ça
elle
vous allait
menteuse,
très bien.
C'est incroyable. Je vois un sous-pull en lycra.
Oui.
Et une cagoule.
Oui, si vous étiez étrange. Très. Et je vois aussi, comme si c'était hier, Elisabeth Assaya qui faisait déjà ses enquêtes conso en shorty velours.
Ah, je valide.
Et
je
juste
valide.
Au corps arc-en-ciel, ça vous
j'assume
allait bien.
J'assume totalement.
C'était il y a 10 ans. Mais Dove Charney, le fondateur très charismatique de American Apparel, vient de faire parler de lui dans une interview qu'il a donnée au Guardian, au très sérieux Guardian. Dove Charney a déclaré « Il est inévitable qu'on couche avec nos collègues de travail ». Donc, Bertrand, Mathilde, ouais. Elisabeth, Bruno, s'il est inévitable que l'on couche ensemble avec nos collègues, il va falloir s'y mettre. Alors, nous sommes 5 autour de cette table. 5 C'est un numéro impair. Comment faire? Et là, vous vous regardez. Mais qui va coucher avec qui? Mais il manque quelqu'un autour de cette table. Didier Porte va arriver. Qui veut coucher avec Didier Porte? Répondez d'un public. Ah, moi, oui, vous voulez coucher avec Didier Porte, vous aussi. Ah, mais dis donc, ça se bouscule au portillon. Avant de répondre à cette question, il vaut mieux lire la suite de cet article sur Dov Charney. On y apprend qu'il a été viré de chez American Apparel. Et vous savez pourquoi? Entre autres, pour avoir harcelé et couché avec ses collègues de travail. Donc, personne ne va coucher avec Didier Porte, que ce soit clair.
Oh,
laissez-le tranquille.
Oh, trop dommage.
Et c'est bien dommage, en effet. Oui, vous écoutez Bonjour la France et agissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Bonjour la France. Nous sommes ensemble pour démarrer cette journée. Vous ne pouvez pas mieux commencer à vos côtés. On va répondre à toutes vos questions dans un instant sur Europe 1.
Bonjour la France sur Europe 1. Europe 1, Bonjour la France.
Oui, vous écoutez Bonjour la France, mais je ne suis pas seule. Je suis avec Bruno Donnet, Bertrand Chamerois, Mathilde Perrier, Elisabeth Assayag. Vous, évidemment, dans le studio. Tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, celle qui vous concerne. Et pour commencer, on s'intéresse aux mots du jour que vous avez donc lus, vus, entendus un peu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est celui-là, écoutez.
Grève et manifestation au programme à l'appel de la CGT pour dénoncer la réforme du Code du travail qualifiée de régression sociale.
La première mobilisation contre la réforme du Code du travail.
Mobilisation contre la réforme du Code du travail, 180 cortèges, 4000 appels à la grève.
Journée de grève et de manifestation contre la réforme du Code du travail.
La rue s'enflammera à Paris et en province contre sa réforme du Code du travail.
Premier test de mobilisation contre la réforme du Code du travail, c'est la CGT qui bat le rappel.
Alors, le mot réforme aujourd'hui, Bruno.
Oui, alors avant de commencer, Daphné, il faut tout de même que je raconte à tous ceux qui vous écoutent un peu de la coulisse de votre émission. Car hier, après mon tout premier papier consacré à Jean-Pierre Raffarin, vous m'avez dit, bon, écoute, c'était pas mal, mon petit bonhomme, mais c'était quand même vachement politique.
Ce pauvre
demain, ça serait sympa, tiens mon œil, si tu pouvais aller sur un tout autre terrain, parce que sinon, tu vas faire fuir tous nos auditeurs. Alors, je vous rassure, Daphné, je vous ai parfaitement entendu, et c'est pour ça que j'ai choisi ce matin le mot réforme. Réforme,
c'est archi faux.
Qui porte en lui une sorte de quintessence de la vie politique.
Ah.
Et si je l'ai retenu, c'est bien sûr à cause des manifs d'aujourd'hui contre la réforme de la loi travail, mais c'est aussi pour vous mettre en garde, car ce terme est ce qu'on appelle un faux ami. Pourquoi ? Eh bien parce que réforme est un mot qui, en apparence, a l'air sympa. Gentil, carré, quasiment scientifique, en tout cas nécessaire, alors qu'il porte en lui tous les germes de l'empapaoutade.
Ah oui, l'empapaoutade.
La première preuve, eh bien, c'est que tous ceux qui essaient de nous faire avaler leur fameuse réforme sont hyper agressifs dès qu'ils prononcent le mot. C'est bien simple, ils parlent tous comme Nicolas Sarkozy.
J'ai été élu pour conduire un mouvement de réforme sans précédent.
Voilà, hein, même 10 ans après, ça fout encore les jetons.
Mais qu'est-ce qui vous fait si peur dans le mot réforme, Bruno, pour que vous le traitiez de faux amis ?
Alors, pour bien
dans
comprendre,
papa outade, j'adore
bien,
ce mot.
Pour bien tout comprendre, Daphné, il suffit de se demander qui on réforme.
Oui.
On réforme les candidats au service militaire, par exemple, quand ils sont complètement zinzins ou qu'ils ont les pieds plats. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Mais on réforme aussi les vaches lorsqu'elles sont trop vieilles ou qu'elles ne donnent plus suffisamment de lait.
C'est vrai, c'est vrai.
Et qu'est-ce qu'on leur fait quand on les réforme ? On les bute et on les bouffe. Eh bien ça, c'est très précisément ce que craignent les salariés les plus fragiles. Tout ce tas de fainéants qui manifestent aujourd'hui contre la réforme. Ils redoutent qu'après leur avoir bien tiré sur le pied pendant plusieurs années, leurs employeurs puissent demain les virer encore plus facilement qu'aujourd'hui pour les remplacer par des plus jeunes ou des qui donneront davantage de lait. En fait, ce dont ont peur les plus précaires d'entre nous, c'est que ces réformes les rendent malades, malades du travail, en arrêt maladie extrêmement prolongé. Et ce qui me fait dire qu'ils n'ont pas forcément tout à fait tort, c'est que pour faire passer sa satanée réforme, le gouvernement a recours à quoi ? À des ordonnances, mes amis. Alors s'il n'y a pas là-dedans un symptôme préoccupant, hein, s'il n'y a pas un indice énorme qui a des effets secondaires à la réforme, je veux bien bouffer Alain Rey et son petit Robert avec lui. Car en somme, ce que Macron s'apprête à faire avec les lois qui encadrent le travail, eh bien, c'est extrêmement simple. C'est une sorte de dynamitage qui a d'ailleurs été parfaitement bien décrit par Michel Audiard et ses tontons flingueurs il y a plus de 50 ans. Écoutez bien, on jurerait entendre Emmanuel Macron qui vient de se prendre un énorme bourre-pif en relisant le Code du travail.
Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle.
Oui, oui. Qui c'est Raoul ? C'est Emmanuel Macron. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Donnet. La rue va peut-être s'enflammer, en tout cas, dans la capitale et partout en France. Cet après-midi, vous pouvez suivre toute l'actualité du jour sur Europe 1, bien évidemment. Allez, maintenant, c'est à vous. les auditeurs, évidemment, de Bonjour la France. On répond à toutes vos questions sur Twitter, hashtag Bonjour la France. On vient aussi à vous parce que le micro d'Europe 1, c'est pas un flemmard comme ça. Il a pris une bonne résolution à cette rentrée. Il est allé faire un petit jogging dans un parc et il a tendu son fil. Et tout simplement, Didier a une question pour l'équipe.
J'ai entendu que les ventes de lentilles avaient explosé grâce au prince Georges. C'est vrai ?
Ah, j'aime cette question, Didier. Alors, qui va y répondre ?
Moi, madame.
Très bien, Elisabeth Assayag, on y va.
Alors, depuis qu'un journal anglais, le Daily Mail, a passé en revue le menu de la cantine du prince George et de son école maternelle du centre de Londres, effectivement, les ventes de lentilles ont explosé. Il faut dire qu'il y a quelques années, il y a eu un chef français dans cette très chic école et c'est ce chef qui avait eu l'idée d'introduire ces précieuses lentilles vertes du puits. L'effet a été immédiat. J'ai eu le responsable des lentilles vertes du puits ce matin.
C'est bizarre, Elisabeth, quand vous dites ça.
On profession, va chef des lentilles.
On parlera après des effets secondaires des lentilles, d'accord ? Oui. Mais l'effet a été immédiat.
En tout cas, en ce qui concerne l'entreprise, effet immédiat, les demandes de lentilles vertes du puits en velay ont explosé chez les fournisseurs de Londres. Ce sont surtout les restaurateurs qui ont doublé leurs commandes. Il n'y a pas meilleure publicité pour nous, me disait-il. Ces lentilles sont les meilleures, leur qualité est reconnue, la peau est fine et l'amande non farineuse et c'est bon pour la santé.
Bon, on a besoin d'un petit peu plus de renseignements. Qui on va téléphoner ? Évidemment, le seul et unique Éric Roux qui est porte-parole de l'Observatoire des cuisines populaires. Bonjour Éric Roux, comment ça va ?
Bonjour Daphné, ça va très très bien.
Je suis ravie de vous entendre. Alors j'ai plein de questions évidemment à vous poser. Déjà, les lentilles, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour la santé ?
C'est formidable pour la santé. C'est, en fait, c'est une source de protéines presque plus efficace que la viande. 25% de protéines. Donc on peut remplacer sa viande par des lentilles vertes du puits ou d'autres lentilles, qu'elles soient blondes de Saint-Flour ou lentillons de Champagne.
Mais alors pourquoi les lentilles du puits sont-elles les meilleures ?
Parce que, en fait, le velay où pousse lentille, la Haute-Loire, est une région qui est sous influence méditerranéenne. C'est certes la montagne un peu au nord, mais c'est une région où il y a un gros coup de chaleur en général en juillet qui bloque la maturité des lentilles.
Donc, elles n'ont pas trop d'attente.
Et de Laurent Wauquiez, selon Bruno Denet.
Je ne sais pas qui c'est.
oui, on vous écoute, Eric.
Le soleil méditerranéen bloque la maturité des lentilles et fait qu'elles ont beaucoup plus de protéines, elles sont beaucoup plus faciles à cuire que les lentilles qui sont cultivées de manière plus septentrionale.
Alors, le petit prince Georges ne cuisine pas encore, mais nous, comment fait-on pour cuisiner des lentilles ?
La lentille verte du puits est d'une simplicité biblique.
Oui, essayez de me convaincre.
Mais c'est long,
Bon, allez-y, tentez de nous convaincre.
Alors, juste déjà un petit truc. Vous connaissez le problème des légumes secs. C'est pas la peine de vous faire un dessin.
Quel est le problème des légumes secs, Éric Roux ?
Le légume sec a tendance à provoquer une flatulence un peu
exagérée. D'où l'effet immédiat, je comprends mieux.
Voilà.
Oui, mais j'ai une solution.
Alors, comment fait-on ?
La sarriette. Pèdre d'Az en occitan, en langue du Midi, c'est une herbe qui a un goût un petit peu poivré. Si on met de la sarriette avec les lentilles ou n'importe quel légume sec, ça facilite leur digestion. Oui. Et là, plus de problème.
Plus de flatulence.
Tout se passe très bien. Mais surtout, la lentille verte est le seul légume sec qui se cuisine sans trempage. On n'est pas obligé de les faire gonfler avant. Vous les mettez directement à l'eau froide, vous portez à l'ébullition. Allez, 20 minutes maximum de cuisson et c'est prêt.
Un petit assaisonnement, Éric Roux ?
Ah, mais bien sûr, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. En ce moment, il y a des super tomates, normalement sur les marchés de vente directe, qui sont repassées par le frigo. Vous les mondez, vous les concassez, vous mettez ça dedans, vous tournez rapidement. Un petit morceau de lard, de l'ail, de l'oignon, ce que vous voulez, parce que la lentille verte, en fait, c'est un univers d'imaginaire.
Le lobby de la lentille.
Vous m'avez fait voyager, Éric Roux, comme à chaque fois. C'était très bon de vous entendre. Éric Roux, porte-parole de l'Observatoire des cuisines populaires. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions dans Bonjour la France sur la lentille. Plus de flatulence grâce à vous. Merci infiniment pour ce service rendu à la France. Merci encore. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Bonjour la France. Mais tout de suite, on écoute Robbie Williams. Feels sur Europe 1.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life through my veins, going to waste. And I need to feel real love and a love in the rafter. I cannot get enough.
Robbie Williams, Feels à l'instant sur Europe 1. Robbie Williams qui ne file pas très bien. Apparemment, on vient d'apprendre qu'il n'achèvera pas sa tournée européenne pour des raisons de santé. Ça n'a rien à voir avec les lentilles. Ses concerts prévus en Russie ces jours-ci sont annulés. Bon rétablissement, Robbie. Vous pouvez venir dans le studio de Bonjour la France pour prendre un petit peu de repos, un peu de bonne humeur. L'équipe s'occupera de vous.
Bonjour la France sur Europe 1.
Il est 10h22, bonjour la France, avec Bruno Denet, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag et vous, oui, vous, tous les matins, on répond à vos questions sur le répondeur, au 3921, sur Twitter et encore au micro d'Europe 1. Et aujourd'hui, c'est Eugénie qui a une question à nous poser, on l'écoute.
J'ai entendu parler d'un nouveau phénomène qui s'appelle la demisexualité. Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui.
Non, c'est vrai que ça interroge. Alors, je ne suis pas sûre, Eugénie, qu'on puisse parler d'un phénomène. Parce que, non, mais il y a toujours un nouveau mot.
Ça peut prendre.
On a eu le métrosexuel.
Oui.
On a eu le ubersexuel.
Oui, c'est vrai.
Avec la barbe et le style bûcheron.
C'est vrai.
On a eu quoi aussi ? On a eu l'asexuel.
Oui.
Le pansexuel, Bruno ?
Je me souviens pas.
Je donne ma langue au chat.
Eh bien, en fait, c'est qu'on ne choisit pas entre le genre sexuel de la personne. On aime les deux. C'est proche du bisexuel.
C'est tous ces mots qui catégorisent votre sexualité.
Voilà.
Alors maintenant, c'est le bisexuel.
Nous
sommes tous bisexuels, mais la demisexualité, donc.
Oui, la demisexualité, bon. Une orientation.
Comme une demi-baguette.
Voilà, une orientation sexuelle. Daphné.
On n'en demande plus beaucoup des demi-baguettes.
Non, bah écoutez.
Je vous la tranche ou pas ?
On va la laisser entière. Revenons à la demisexualité. Donc, une orientation sexuelle méconnue, selon le magazine Biba, hein, carrément. Alors, qu'est-ce que ça serait d'être demisexuel ? En gros, ça serait un peu l'inverse de Tinder.
D'accord.
Ça serait qu'on ne pratiquerait pas du tout le coup d'un soir pour. Être attiré physiquement et avoir du désir sexuel envers quelqu'un, il faudrait d'abord qu'on soit connecté émotionnellement, qu'on ait des sentiments, quoi. C'est vraiment révolutionnaire.
Quelqu'un se reconnaît du coup dans ce phénomène autour de la table du demisexuel ?
Non, mais c'est pas nouveau, c'est faut pas arrêter nouveau. D'inventer c'est des termes.
J'adorais qu'Elisabeth Assayag nous dise ah non, moi je couche toujours le premier soir, moi j'en ai rien à faire.
Et alors, de préférence sans sentiment.
Ah non, oui. Zaza, elle y va direct. Hein. Non, attendez, on va vérifier ça avec la rédactrice en chef de Biba, bien évidemment, Delphine Appiou. Bonjour, vous êtes dans le studio de Bonjour la France au téléphone.
Bonjour.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce demi-sexuel, Delphine ?
Eh bien, écoutez, vous avez tout dit. C'est un nouveau mot sur une tendance qui existe depuis la nuit des temps, on va dire. Depuis que le cul existe, cette tendance existe, je pense.
Le cul, la lettre.
Alors,
oui, bien sûr.
Selon votre magazine, le demisexuel serait à mi-chemin entre la sexualité et la sexualité. Vous avez compris, la sexualité et la sexualité, c'est-à-dire...
Ouais, non, alors, c'est pas à mi-chemin, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit, pour pouvoir ressentir du désir et passer à l'acte, il faut d'abord avoir une attirance cérébrale, émotionnelle, affective, pour être déclenché. Donc c'est pas à mi-chemin, c'est juste que je pense que ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le disiez aussi, c'est à contre-courant. Tout
oui.
phénomène Tinder et tout ce qui est coup d'un soir où on se met d'abord à poil et on demande ensuite le prénom. Je pense qu'on a voulu faire croire à beaucoup de gens que c'était une tendance et qu'il fallait être comme ça, que c'était la norme. Or, ça ne convient pas à beaucoup de gens. Donc, ce qui est intéressant dans ce nouveau mot, je ne vais pas vous apprendre qu'on invente la tendance aujourd'hui, elle est d'inventer des nouveaux mots.
Oui.
On parle des flexi-vegan, je mange de la viande de temps en temps, mais pas que.
Ah, oui.
Donc, on va bientôt inviter peut-être la flexi-connerie, je ne sais pas, la demi-connerie.
Mais ça fait longtemps que c'est inventé, la demi-connerie. Hein.
C'est un titre, qu'est-ce que je vous dis ? C'est un titre vendeur, je ne vais pas vous expliquer comment marche le...
Non, mais alors, sous le titre vendeur, j'aime bien l'idée qu'il y ait un peu de romantisme... qui reviennent en ce moment.
Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que on a voulu, le coup d'un soir est quelque chose de très survendu, à mon avis, qui ne convient pas à tout le monde.
Non.
Autant aux femmes, et plus d'hommes qu'on ne pense, qu'on veut bien croire. Ça, j'en suis convaincu. C'est pas parce que vous voyez un gladiateur en short que tout de suite vous avez envie de faire plein de choses avec lui.
On n'en croise pas beaucoup.
C'est vrai que c'est rare. Le gladiateur, c'est rare.
Je départ chez nous, ça va.
On va traîner souvent dans la rédaction de Biba, alors.
Non, je pense que c'est vraiment... ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement, là, c'est une tendance qui existe depuis toujours. Les mots nouveaux, on n'a rien inventé, ça, c'est la tendance aujourd'hui. Mais ce contre-coup, ce qui est intéressant, je pense, c'est ce contre-coup à, justement, le coup d'un soir, Tinder, qui est très... On veut nous faire croire que c'est la norme, or, je ne pense pas que ça soit la norme. Donc, ce papier nous a intéressé pour dire que, oui, c'est pas grave. Si on parle d'abord avant de coucher, c'est pas grave, on a le droit. Hein.
Merci de nous avoir parlé, Delphine Appiou, rédactrice en chef de Biba. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions dans Bonjour la France. Et d'ailleurs, à suivre, le reportage de Mathilde Terrier qui a poussé la porte des théâtres alors que la publicité doit y faire son entrée. Et les infos What the fuck de Bertrand Chameroy. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki. Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki.
Oui, bonjour la France. Il est 10h30. Vous êtes bien sur Europe 1 en direct avec la belle équipe, Bruno Donnet, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et Mathilde Terrier. Et aujourd'hui, Matou, vous vous intéressez à quelque chose d'assez surprenant. Alors, on le sait, la publicité est partout, à la télé, sur nos abribus, sur Internet. Et maintenant, elle pourrait faire son entrée dans un endroit pour l'instant qui était préservé, on va dire. Au théâtre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça va se passer ?
C'est très simple. Dans moins de 2 semaines, Daphné, si vous allez au théâtre, vous pourrez bien avoir ça. Comme au cinéma, vous aurez le droit, avant votre pièce, à une bonne page de pub, 4 minutes précisément de publicité.
Avant le spectacle. Mais je ne comprends pas comment ça se passe.
En fait, un écran sera placé juste devant le rideau rouge. Pas besoin de payer quelqu'un pour le projeter.
Oh,
il y aura un boîtier, il suffira d'appuyer dessus, ce sera le régisseur du théâtre qui le fera. Et donc, tout se fera automatiquement. Alors, pour l'instant, ça ne concerne que les théâtres privés, 17 exactement. À Paris... mais aussi à Marseille, La Rochelle, Avignon ou encore Rouen, une trentaine d'autres seraient eux aussi intéressés par ce projet et cela pourrait même s'étendre au théâtre public.
Oh,
alors moi, je ne sais pas vous, mais moi la publicité au théâtre, j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre.
Ça n'a rien à voir avec le théâtre,
c'est
ça
pas
casse
vraiment
tout.
Sa place. Alors j'ai demandé à une directrice de théâtre qui a accepté de le faire, c'est Karine Marquis, qui gère la salle des Feux de la Rampe à Paris. Elle nous explique pourquoi elle va projeter de la pub dans son théâtre.
Deux avantages. Un, que ça me permet de faire d'autopromotion, vu que j'ai 4 salles. Donc ça me permet de faire la promotion et les bandes-annonces des autres spectacles qui se jouent chez moi. Et l'autre, c'est que ça génère un petit revenu complémentaire pour le théâtre. Déjà, depuis les premiers attentats, il y a eu une vraie baisse de fréquentation. Donc tout ça, une entreprise qui a une baisse d'activité pendant presque 2 ans, elle souffre toujours au niveau de sa trésorerie. Moi, je trouve pas ça plus choquant qu'au cinéma.
Mais on va pas... au théâtre, en mangeant du pop-corn, vous en pensez quoi autour
Bruno, vous en pensez quoi?
C'est horrible, moi j'ai plus du tout envie d'aller au théâtre si on balance de la pub.
Pourquoi?
C'est terrible, vous allez voir une pièce avec vos enfants et on va vous balancer Carglass répare, Carglass remplace.
Bah, mais ces arguments, ils tiennent la route.
Non, mais on comprend, moi je comprends pour les théâtres, les patrons de théâtre qui ont besoin d'avoir des revenus plus importants. Mais nous, en tant que spectateurs, on a envie. Le théâtre, c'est un îlot, on passe une heure et demie dans un monde à part.
Mais on fait comme au cinéma, moi j'arrive toujours après les pubs quand je vais voir un film.
C'est malin.
Mais vous dérangez plus de monde au théâtre.
Oui, et puis au cinéma, on peut arriver en retard. Au théâtre, la salle est censée fermer à une heure précise. Alors, la directrice des Feux de la Rampe estime que cette pub pourrait quand même lui rapporter 50 000 euros par an, donc c'est énorme.
Alors, si ça peut aider à maintenir le théâtre, à restaurer nos salles de théâtre, dont on est très fiers en France, moi, je trouve que ça se tient.
Mais vous êtes barjot, ça va vider les salles, c'est tout ce qui va se passer.
Non, je ne suis pas sûre. Oh, mais non, beaucoup. Mais ce n'est pas pour 4 minutes de pub que vous n'allez pas aller voir une pièce de théâtre.
Mais bien sûr que si, on va
dans
se barrer.
Dans le public, levez la main. Est-ce que 4 minutes de pub fait que vous n'allez pas acheter une place de théâtre. Il n'y a qu'une seule personne qui lève la main. Bah alors,
mais ils ne vont pas au théâtre, attends.
Mais bien sûr que si, vous allez au théâtre. Mais oui, enfin dis donc,
Bruno,
vous sortez
attends,
de ce studio.
Je vais vous les réveiller, moi.
S'il vous plaît, raccompagnez Bruno en dehors de ce studio. C'est
non, mais bon, alors, qu'est-ce qu'on va voir comme pub? Vous allez voir que ça peut peut-être avoir un intérêt. Pour le savoir, eh bien, j'ai appelé l'agence de communication qui a eu cette idée il y a un an. Elle s'est dit, on va projeter comme ça de la pub dans le théâtre. J'ai posé la question à l'un des fondateurs de l'agence, Alexandre Vernier.
En fait, on est sur un format de 4 minutes qui est composé en fait de deux bandes annonces des spectacles de la salle, hein, je précise vraiment du théâtre,
ça, c'est bien.
Et 4 spots publicitaires de marques de 30 secondes. Ça peut être des marques automobiles, des marques de bijouterie, et également on privilégie tout ce qui est culturel ou institutionnel.
Donc en gros, c'est un mixte. On a deux bandes annonces et 4 pubs. Donc ça fait, les bandes annonces servent d'auto-promo du théâtre, ça incite.
Ça c'est bien,
ça donne envie.
Ça c'est bien, on s'arrête là.
Oui, on ne peut pas choisir.
Et la bijouterie, c'est culturel, c'est ça qu'il dit le gars?
Non, c'est de l'artisanat.
Vous avez vendu
votre
maquille.
Je me fais l'avocat du diable, évidemment, je me fais l'avocat du diable.
En tout cas, ça peut peut-être inciter les spectateurs à aller plus souvent au théâtre en voyant d'autres pièces, en teasant un peu comme ça, en leur donnant envie.
Alors, on peut trouver cela étonnant et révoltant comme Bruno, mais ce n'est pas nouveau,
Bruno.
C'est salaud de Bruno. Non, mais ce n'est pas nouveau. C'est ce que nous confirme le directeur du théâtre des Deux Ânes, Jacques Maillot.
Moi, quand j'ai racheté le théâtre des Deux Ânes, il existait une cabine de projection avec un projecteur 35 mm qui diffusait de la publicité, vous savez comment on en diffuse dans les cinémas. Cette pratique a disparu vers 1970 à peu près. Ben, il y avait de tout, hein. C'était des publicités pour les spiritueux, pour les vêtements, pour les voitures bien sûr. Ouais, c'était des publicités très généralistes.
Enfin, c'est les Deux Ânes.
C'est le théâtre des Deux Ânes.
C'est un théâtre quand même.
Alors, une réaction de Bruno Donnet.
Essayez d'aller filer de la pub à Ariane Nouchkine à la cartoucherie de Vincennes, vous allez être reçu à mon avis.
Je l'ai appelé justement. Donc, la cartoucherie nous a dit que déjà, elle ne mettait pas les logos des partenaires qu'il a subventionnés. Donc, évidemment, elle ne mettrait jamais de pub. En tout cas, dans les années 60, avant une pièce, voilà ce qu'on pouvait entendre.
Alba Junior habille les jeunes d'une manière élégante et pratique pour tous les âges et pour tous les usages. Coupés dans des tissus de haute qualité, les vêtements Alba
Junior
sont solides.
Alba coupe jour et nuit les plus beaux vêtements de Paris.
C'était sympa.
Bah oui.
Écoute, moi j'ai une idée.
Aller faire du shopping tout de suite. Tu vois, c'est immédiat.
Des vêtements solides.
Moi, je veux des vêtements solides et bien coupés.
Mais moi, j'ai une idée. Si on veut mettre de la publicité au théâtre, au lieu de le faire sur un écran, on reste dans l'ambiance du théâtre. On prend des vrais comédiens. Ils nous font 2 minutes de pub.
On rejoue les publicités.
Oui, ils rejouent sur scène.
Elisabeth, là, c'est ambitieux. Hein. Ouais. Je suis pas sûre.
Ça ferait travailler des comédiens.
Carglass remplace.
Elisabeth a forcé sur les lentilles.
Non, ça marcherait pas. Je suis pas sûre. Moi, je trouve que c'est assez logique, voilà, et qu'il faut bien trouver des revenus pour maintenir nos théâtres.
Bah, en tout cas, pour les théâtres privés, on peut comprendre, mais ça pourrait bien s'étendre au théâtre public.
Alors, moi, j'ai une autre idée. Ils font des bons pestacles, comme ça, ils remplissent la salle et ils n'ont plus de problème.
Bruno, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, je ne suis pas pour la pub, surtout pas au théâtre public, mais l'agence de communication qui a eu cette idée me confiait que plusieurs établissements publics les avaient contactés sans vouloir donner le nom, comme si c'était un petit peu honteux pour un théâtre public de demander ça. Alors j'ai demandé à un grand homme de théâtre, plutôt engagé à gauche, le directeur du théâtre de Rond-Point, Jean-Michel Ribes, ce qu'il pensait de tout ça.
Si c'est quelque chose qui peut aider à ce que le théâtre ne meure pas, pourquoi pas? Moi, ce qui me choque, c'est que le théâtre, c'est un endroit où on est avec du vivant et du vivant. À partir du moment où on commence par quelque chose qui est du cinéma pour tout de suite après repasser dans du vivant, je trouve que c'est quand même un petit choc, quoi. Il y a quelque chose qui me semble pas être de la même nature, si vous voulez. On peut aussi mettre de la publicité dans les églises. Je dis pas que le théâtre est un endroit sacré, mais c'est quand même un endroit où on vient avec une certaine concentration pour être en communication avec des êtres vivants. Et je trouve que ça, c'est quand même un barrage.
Réaction de Bruno
Jean-Michel Rive, je ne sais pas si vous vous souvenez de Palace, mais alors lui, il refaisait des pubs dans Palace et c'était à se tordre de rire. Donc ça, c'est peut-être une piste.
La piste d'Elisabeth Assayag, donc de renouer éventuellement les publicités.
Alors
pour
l'instant,
la publicité soit vivante.
Les salles concernées sont en train de se faire équiper là en ce moment et une première salle avec de la pub doit être testée dans les 2 semaines.
Merci beaucoup Mathilde, ça arrive dans 2 semaines. Complètement fou cette histoire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous iriez voir des pièces de théâtre avec de la pub sur le hashtag Bonjour la France? On va continuer à passer l'actualité du jour en revue. L'actualité que Patrick Cohen n'a tout simplement pas vue, pas entendue, trop occupé à jouer Je te tiens, tu me tiens par la berrichette avec Mathieu Noël. Bon, très bien, hein, pas grave. Vous le retrouvez quand même tous les matins dans Europe Matin à partir de 7h sur Europe 1. Et nous, on est dans Bonjour la France, on se retrouve dans un instant.
Bonjour la France sur Europe 1. Bonjour la France sur Europe 1, Daphné Burki.
Oui, vous écoutez Bonjour la France, nous sommes là désormais tous les matins pour vous de 10h à midi avec l'équipe. On déroule toute l'actualité du jour, toutes les infos qui auraient pu vous échapper mais qui vous concernent, hein, celles totalement barrées aussi. Avec vous Bertrand Chameroy, c'est les What the Fuck.
Bonjour la France.
What the fuck?
Les infos qui changent le monde.
Oui, c'est des infos qui pourraient changer le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on
tente. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, Daphné. Oui. Priorité au direct, ça vient de tomber. Je me dois de rapporter cette information à nos auditeurs. Je vous la livre telle quelle.
Oui.
Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, une paire de lunettes a été retrouvée dans la Drôme à Rochechinard, plus précisément au niveau du portail de la Ragnole. Ah. C'est vrai, véridique. Des lunettes de type monture écaille qui sembleraient être médicales selon les premiers témoins. Si vous êtes le propriétaire de ces lunettes, sachez qu'elles peuvent être récupérées à la mairie de Rochechinard les mardis et vendredis matin. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si la situation évolue. C'est aussi ça la mission de Bonjour la France, être toujours plus proche de vos préoccupations.
Mais c'est une vraie info.
Il y a vraiment eu un encart sur des lunettes médicales retrouvées à Rochechinard. Écailles, lunettes écailles, je répète, au niveau du portail de la Ragnole.
Ça, c'est de la proximité, voilà. Tu vois. Bon, on le fera régulièrement.
Bonjour la France.
On est là pour relayer toutes ces infos. Merci Bertrand. On passe vraiment à l'info What the Fuck avec cette nouvelle tendance venue des États-Unis.
Et oui, après le ice bucket qui consistait à se renverser un seau d'eau glacée sur la tronche pour la bonne cause, challenge relevé par les plus grandes stars comme Johnny Hallyday. Merci Johnny. Après le mannequin challenge qui consistait à rester figé devant une caméra, le président algérien Abdelaziz Bouteflika en est d'ailleurs le champion incontesté depuis des années.
Oui, c'est vrai.
Les États-Unis ont décidé de repousser les limites de la crétinerie en lançant le Hot Water Challenge qui consiste, comme son nom l'indique, à se vider sur la tête ou celle d'un ami un seau d'eau bouillante.
Parce que c'est... Mais alors quel est l'intérêt? Parce que là il faut... ça va très loin. Ouais. C'est pour une œuvre caritative?
Eh bien non, même pas. Malheureusement, aucun intérêt donc, si ce n'est gonfler son égo en obtenant quelques likes, mais au prix de graves blessures. Cette pratique, bien sûr, est extrêmement dangereuse. Un ado de 15 ans en a fait l'amère expérience. Alors qu'il dormait, il a été brûlé au troisième degré dans le cou par ses amis, et j'y ajoute de gros guillemets. Ils ont filmé la scène. Depuis, le garçon est traumatisé, bien sûr, et il ne veut plus entendre parler d'eux. Donc c'est de la pure débilité. Ça vient des États-Unis. On espère que ça ne viendra pas jusque chez nous.
Non.
Et l'exemple de ce jeune homme n'est malheureusement qu'un triste exemple parmi tant d'autres. Alors j'ose naïvement espérer que l'escalade du tout à l'ego s'arrêtera avant que ne débarque le main sur plaque de cuisson challenge ou l'avalage de verre pilé challenge.
Oui, ça peut arriver aussi. Mais non, mais il faut en parler de ces challenges qui arrivent à chaque fois sur les réseaux sociaux qui font le buzz. Parlez-en avec vos adolescents. Le Hot Water Challenge est totalement débile.
Il y a eu beaucoup d'accidents aux États-Unis.
Mais oui, merci d'en avoir parlé en tout cas, Bertrand Chameroy, aujourd'hui. Il est 10h44 et dans quelques minutes, on va dire bonjour à notre invitée. Je suis contente. C'est la comédienne Bérénice Bejo en mode nouvelle vague à l'affiche du dernier film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable. Et avant ça, Elisabeth Assayag va nous livrer ses infos conso. Mais c'est juste après MC Solar, Son Automne sur Europe 1. Vous écoutez bien Bonjour la France.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma bisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place.
Et quand je me casse, ils parlent envers l'an style te malieuvre. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose est salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambadait dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec ferveur être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer, je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Klux Klux. Sois, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi, regarde vers le bas. Agenouille-toi, regarde vers le bas. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma peau se tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps jeune, fun. Je brille comme un gun neuf. J'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de Bangkok à Elbeuf. Le tout si possible, arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. Là-bas la vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle, moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne, avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone.
Sonotone, à l'instant sur Europe 1, le premier titre hein, après 10 ans de silence de MC Solar, extrait du nouvel album Géopoétique. Ça sortira en novembre prochain pour ceux qui voulaient la date. En attendant, vous êtes bien dans Bonjour la France qui rayonne déjà partout dans le monde. Et oui, aujourd'hui, c'est avec vous, Bruno Donnet.
Europe 1, Bonjour la France, Daphné Burki.
Oui, vous avez compris, hein. En même temps, si vous n'avez pas pigé, on est mal barré, parce que le titre de l'émission s'appelle Bonjour la France, donc c'est d'abord la France qui nous intéresse, et puis le monde ensuite. Des infos, une actualité qui s'est passée à l'étranger, qui nous a interpellés. Bruno Donnet, ce matin, vous vouliez nous raconter l'histoire d'un homme qui est en train, selon vous, de révolutionner toute l'histoire de la démocratie au Kenya.
Oui, Daphné, le Kenya, vous le savez, hein, c'est ce petit pays situé à l'est de l'Afrique qui est bordé par l'océan Indien et coincé entre l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. Eh bien, il y a tout juste un mois, figurez-vous que le Kenya organisait son élection présidentielle. C'est le président sortant, Uhuru Kenyatta, qui est sorti gagnant, et celui qui est arrivé deuxième a immédiatement contesté les résultats sortis des urnes. Alors jusque-là, on est dans du très grand classique, sauf que, il y a tout pile 10 jours, les résultats ont été invalidés. Et qui les a invalidés? Eh bien, un juge, le courageux président de la Cour suprême kényane, j'ai nommé David Maraga, 66 ans, qui est donc mon héros du jour.
Pourquoi vous dites... Oui, mais pourquoi vous dites qu'il est héroïque?
Eh bien, il est héroïque, Daphné, parce que c'est la toute première fois que, non seulement au Kenya, mais également dans toute l'Afrique, un homme ose apporter la démonstration que des élections n'ont pas été conduites de façon régulière. Ça n'était jamais arrivé, nulle part en Afrique, tout simplement parce que les représentants de la justice, il était jusqu'ici ou bien trop corrompu pour avoir envie de dire quoi que ce soit, ou alors trop effrayé à l'idée de finir leur vie voilà. En tôle ou avec une balle entre les deux yeux.
Alors comment il s'y est pris, votre héros du jour, pour réussir à faire annuler l'élection?
Eh bien, il a tout simplement réussi à mettre en évidence que le logiciel informatique qui sert à transmettre les résultats était facilement falsifiable. Et il a découvert aussi que les terminaux des ordinateurs étaient fournis par une société française et qu'ils étaient installés non pas sur le sol kényan, mais planqués quelque part, on ne sait où, en Europe. Mais ce qu'il y a de quasiment plus remarquable dans cette histoire, Daphné, c'est que le président élu a immédiatement accepté la décision de David Maraga et qu'il est, depuis 10 jours, reparti en campagne.
Mais donc, quelle est la situation, là, à la minute près, la situation politique au Kenya? Qui dirige le pays?
Eh bien, personne. C'est le gros bordel et ça va durer comme ça jusqu'au 17 octobre prochain, date de la nouvelle élection présidentielle. Une preuve, chère Daphné, que contrairement à l'ordre qui règne dans toutes les républiques bananières, le bordel est non seulement un témoin, mais également un très joyeux avatar de la démocratie.
Merci beaucoup Bruno Denet, c'était Bonjour le Monde. Mais là vous écoutez Bonjour la France en direct et en public comme tous les matins sur Europe 1. Vous pouvez nous suivre sur le live d'Europe1.fr. Bon, on a des mines correctes, on a mis un petit peu de rouge sur les joues histoire d'être un peu frais. Bon, en tout cas on est là, on est bien. Il est 10h50, on va parler conso un peu et on va parler de ce petit écran qui occupe le devant de la scène aujourd'hui. L'iPhone 8 fait sa sortie. C'est un événement, forcément, que dis-je, une révolution. Mais pendant ce temps-là, une autre révolution en son temps broie du noir. L'écran de télévision, à en croire les observateurs, ses ventes se sont effondrées cette année. C'est le dossier du jour, Elisabeth Assayag.
Et oui, les ventes de télévision ont été divisées par 2 par rapport à l'année dernière. Et si vous faites un petit tour dans les magasins d'électroménager, Darty, la Fnac, Boulanger, tous en ce moment font des promos des moins 30, moins 50% sur les télés, des remboursements de 200 euros. Et on ne parle pas des vieux téléviseurs, là. Ce sont des télés haut de gamme, ultra sophistiqués, dernier cri, comme des Samsung, des Philips, des Brandt. Sony rembourse même 15% de la valeur de certains
modèles. Ne sortez pas tout de suite du studio, parce que j'en vois qui disent « Ouh, dis donc, Elisabeth Essayag, elle est en train de nous filer un bon plan, l'air de rien, dans sa chronique. »
Les promos non, d'Elisabeth.
C'est pas ça le sujet, hein. On n'y va pas tout de suite, on attend midi, merci. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché des téléviseurs?
Et ben, on revient d'un cru 2016 qui a été exceptionnel en matière de vente de télé. D'après le cabinet GfK qui a révélé ces chiffres, il s'agit seulement d'un contre-coup d'une excellente année. Finalement, 2016 était un peu l'année un peu anormale dans le monde de la télévision, enfin des téléviseurs.
Mais pourquoi?
Parce que l'année dernière, il y a eu le passage des chaînes en HD, plus la Coupe d'Europe de foot qui ont favorisé les achats des téléviseurs. Entre 2011 et 2016, ça allait mal, sauf qu'en 2014, où il y avait eu un bon cru grâce à la Coupe du monde de foot. Et en 2016, l'année dernière, il s'est passé ce que l'on appelle le switch. Souvenez-vous, les plus vieux téléviseurs non équipés pour recevoir un signal en haute définition,
on pourrait mettre une musique triste, presque là,
ne pouvaient plus capter aucune chaîne. Il fallait
ces
donc...
téléviseurs qui ont été abandonnés dans la rue. Tout comme
2016.
Les sapins, chaque année de Noël, ils ont perdu leurs épines. Ils sont là, tristes, à se prendre l'eau du caniveau. Et personne ne les prend par la main.
Mais Daphné, vous prenez pour Richard Bohringer ou...
Mais non, mais j'aime la télévision.
Non,
et la télévision vous aime.
Là, vous parlez de l'année 2016, cette année qui était très bien pour les téléviseurs, mais il fallait donc changer. Les vieux sont au caniveau, comme vous venez de le dire, parce qu'il fallait les remplacer, à moins de se doter d'un adaptateur. Enfin, c'était très compliqué. C'est donc en 2016 le moment où les foyers ont eu envie de basculer de la vieille télé à l'écran plat. Et l'écran plat, c'était souvent un prétexte pour avoir un second poste dans la cuisine ou dans la chambre. On dit tiens, on va mettre l'écran plat ici.
Bon, Elisabeth Essayag, dites-nous, c'est la fin du téléviseur?
En quelque sorte, oui, parce que c'est la fin de la toute puissance.
Mathilde est ravie, vous n'avez pas télévision, toujours pas.
J'avais une télévision cathodique.
Non, vous n'avez pas télévision, c'est de la déco.
Lors de mon déménagement.
C'était une télévision pour faire de la déco. Vous ne l'avez jamais allumée, donc elle est ravie. Bruno, vous regardez la télévision?
Moi, j'ai une autre hypothèse. Si on vend moins de télévision, c'est peut-être à cause de ce qu'il y a dedans. De la merde.
Bruno, dis donc, vous exagérez, vous avez fait partie de cette télévision à un moment donné.
Mais c'est même toujours le cas, mais vous savez qu'il y a des petits îlots sympathiques
et beaucoup de
trucs un peu moins intéressants.
C'est vrai. Bon, d'accord. Bon, ça, c'est l'avis de Bruno Denet. Nous, on n'est pas totalement d'accord.
Non.
On pense
Bertrand,
qu'il y a encore
il adore
des bonnes choses à faire.
Oui.
Non, il y a encore des belles choses à la télévision. Bon, alors racontez-nous
donc,
la fin du téléviseur.
Donc, c'est la fin de la toute puissance de la télé à la maison. Et effectivement, pourquoi renouveler son téléviseur lorsqu'on a déjà un smartphone, une tablette, un ordinateur qui sont parfaitement adaptés aux nouveaux modes de consommation des contenus comme le streaming, le replay, la télé de rattrapage. Et c'est d'ailleurs ce que pense Mickaël Mathieu de l'Institut JFK. Pour lui, nous sommes passés à une nouvelle ère multi-support.
Il y a encore quelques années, seule la télé permettait d'avoir accès à du contenu, que ce soit en direct ou en différé. Aujourd'hui, la tablette, le PC, voire le smartphone, même si c'est un peu moins confortable pour regarder son programme, permettent d'avoir globalement le même accès au niveau de la télé.
Voilà, donc il y a un grand effort à faire de la part des fabricants s'ils veulent voir revenir leurs clients, surtout par rapport au prix. La télévision, là on s'adresse aux fabricants, ce n'est plus un produit de luxe, donc il faut arrêter de les mettre à un prix très très élevé, d'autant plus que les prix vont baisser de plus en plus parce que la concurrence est très forte, notamment la concurrence des pays asiatiques.
Bon, va falloir faire un petit effort, Mathilde, peut-être, pour redresser un petit peu le bilan. Vous achetez une télé ? Parce que pensez
Mathilde.
À tous ces écrans qui attendent chez toutes ces enseignes à bas prix. Elles sont là, elles attendent un papa, une maman, une petite matouterrier. Elles sont là avec leur petite télécommande à discuter. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qui va venir nous chercher ? On est à moins 50, moins 40, moins 30%, c'est déjà humiliant. Alors, s'il vous plaît.
Elle fait très bien la télé. Elle fait bien
jusqu'à moi.
Allume-moi.
Descends ce tapis mécanique roulant. Rentre chez Darty. Viens me chercher tout au fond du magasin.
Mais ça va pas.
Bon, allez, ça suffit.
Très
bon. Écoutez, vous faites ce que vous voulez.
Les beauty en télévision, j'adore.
Oui, bon, voilà. Non, mais ce sera peut-être mon métier très bientôt. J'irai vendre des télévisions. Merci en tout cas, Elisabeth Sassayag, d'avoir fait le bilan. Merci d'écouter Bonjour la France aujourd'hui encore. À suivre dans la deuxième heure, on va vous expliquer que les requins ne sont pas forcément là où on les attend. Vous avez compris, c'est une info what the fuck. Didier Porte poussera la porte du studio juste pour rigoler. On espère qu'il repartira pas encore une fois en la claquant. Retenez Didier Porte dans le studio, hein. On fait un truc, si jamais il part, vous le plaquez au sol et on le ligote et on le met sous la table, d'accord ? Il a rien entendu, on se dit ça, voilà. Et puis notre invitée, c'est Bérénice Bejo. Elle va nous replonger dans les années Nouvelle Vague à l'occasion de la sortie du film événement de la rentrée, Le Redoutable, signé du réalisateur de The Artist ou encore de OSS 117.
Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin Kerotte.
Et oui, le gratin Kerotte. Alors à tout de suite sur Europe 1, on se retrouve juste après les infos de 11h.
Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki. Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki.
Eh oui, bonjour la France, c'est votre rendez-vous quotidien d'actualité, 2 heures d'infos, de bonne humeur avec une équipe en or. Aujourd'hui, Bruno Donnet, qui a pris la place d'Ariel Wiesmann, est avec nous, bien évidemment. Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag, Mathilde Terrier. Et au sommaire de cette deuxième heure, on va continuer à dérouler l'actualité du matin. Oui, c'est encore le matin. On va vous expliquer qu'il faut toujours se méfier de ses voisins. Et puis on va jouer aussi. Tout cela en compagnie de notre invité qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui. Elle est comédienne. Elle aurait pu être l'une des héroïnes de Jean-Luc Godard, mais elle est arrivée sur grand écran dans la vague d'après. César de la meilleure actrice pour son interprétation remarquée dans le film The Artist. Juste en le prononçant, ça nous redonne le sourire. Elle est aujourd'hui à l'affiche de la comédie Le Redoutable qui nous plonge dans les années Nouvelle Vague. Bérénice Bejo est notre invitée, mais on va l'accueillir en chanson. 3, 4.
Bérénice Bejo, Bejo.
La, la, la.
Bérénice Bejo, bravo.
Aucune
fille au monde n'est aussi sympa que toi.
Voilà, on voulait vous accueillir en musique. Installez-vous.
C'est sûr que vous êtes ravis. Je suis ravie.
Elle est repartie.
Merci beaucoup.
On était déchaînés ce matin.
Ah, mais ça fait du bien.
On était contents. On s'est dit, mais cette chanson, elle aurait dû être faite pour vous.
Et puis, on chante bien. Donc
ah, vous chantez super bien. Franchement, je suis couchée tard hier. Je suis fatiguée ce matin, mais là, ça y est.
Alors, ça nous a... Pourquoi vous vous êtes couchée tard hier ?
C'était l'avant-première du Redoutable. Et oui. Et
comment ça s'est passé ?
Bah, c'était génial.
Racontez-nous, parce que pour ceux qui nous écoutent, une avant-première, on dit oui, une avant-première, ça a l'air banal comme ça, pas du tout. On présente le film, le fruit d'années de travail comme ça au public. Qu'est-ce que ça fait à chaque fois ?
Bah, en fait, hier, c'était particulier parce qu'on l'a présenté donc, à la famille du cinéma dans une salle. Puis on est allé dans 2 autres salles et on l'a présenté au vrai public.
Voilà.
Et en fait, les deux sont assez particuliers et on est toujours très curieux.
Et en fait, il y a deux pistes, deux ambiances. Oui, hein. Mais le milieu du cinéma est peut-être un peu plus réservé.
Non, parce qu'en fait, c'était la liste de Michel Hazanavicius. Ouais, c'était que des gens qui l'aiment beaucoup.
Et qui l'avaient payé.
Non, mais franchement, le film est tellement sympa et tellement drôle que j'avais pas tellement peur pour les gens, nos amis du cinéma. Et en fait, même dans les salles publiques, les gens sont sortis avec la banane, ravis. Donc voilà, donc je me suis couchée un peu vers 3h du matin, d'où ma voix et mes yeux.
Parce qu'il y a eu une fête après.
Bah,
quoi.
Oui, puis on parle.
On débriefe. Voilà. Alors débriefons ensemble, parce que c'est vrai que c'est un film très drôle et très joli aussi. Ça fait du bien à regarder. Mmh. Tout est peaufiné dans les moindres détails. Le décor, les couleurs. Bah oui, je suis très attachée aux couleurs, donc ça m'a plu visuellement.
Je comprends.
Donc cette nouvelle comédie de Michel Hazanavicius, Le Redoutable, ça sort en salle mercredi, c'est pour ça qu'on vous en parle. Vous jouez aux côtés de Louis Garrel, qui est assez formidable, qu'on retrouve sous les traits de Jean-Luc Godard, avec cette même voix, ces mêmes mimiques, réalisateur donc de La Nouvelle Vague. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas, ou éventuellement, comment est-ce que vous définissez pour vous le cinéma de Jean-Luc Godard ?
Eh bien, il y a le cinéma avant les années 70, qui est un cinéma très ludique, très libre, très inventif, rigolo, réaliste, et qui est le cinéma de Godard que j'aime. Et puis, il y a le cinéma après les années 70, qui est un cinéma plus expérimental, je dirais, qui est un peu plus particulier, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui reste quand même très intéressant, différent. Enfin, de toute manière, Jean-Luc Godard est... un réalisateur français le plus intéressant, je pense.
Il est à part. Oui,
il est très à part.
Comme on dit, et ce film, justement, il situe cette transition, ce cinéma de l'un à l'autre chez Jean-Luc Godard. Écoutez comment il définissait son cinéma. C'était en 67, année justement où le film, là, Le Redoutable, a été situé.
Mais vous sentez que vous devez faire ce genre de film que l'on peut appeler quand même engagé, entre guillemets.
Non, pas engagé. Je pense qu'on doit faire des films différents des 99% des films qui se font.
Et pourtant, vos films marchent, alors qu'ils sont totalement différents.
Ils marchent difficilement et pas si facilement que ça. Quelquefois, oui, parce que je pense que s'ils marchent et qu'on touche quelque chose qui intéresse une certaine partie du public.
Vous êtes vous-même une spectatrice, ou vous étiez une spectatrice en tout cas de ces films ?
De ces films avant 70, oui. Les films après, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est je dis ça vraiment avec beaucoup de respect, mais pour moi, ça s'apprend plus à de l'art contemporain c'est pas du cinéma avec un début, un milieu, une fin, une dramaturgie classique, mais c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a eu la sensation de faire comme tout le monde et il est parti ailleurs. Quoi.
Et c'est devenu un petit peu plus conceptuel,
oui.
Alors que vous êtes plutôt, je sais pas, vous êtes à bout de souffle, peut-être plus, un peu.
À c'est bout
plus
de souffle, votre... mépris, bande à part.
Alors on va jouer tout à l'heure.
Une femme est une femme, il y en a plein.
On va jouer tout à l'heure, donc attention, révisez vos classiques. Là, en tout cas, vous tournez sous la direction de votre mari, le réalisateur Michel Hazanavicius, à qui l'on doit énormément de succès. Et artiste, évidemment, le film aux 6 Césars, aux 5 Oscars, aux SS 117, ou plus récemment, The Search. On a envie de savoir comment s'est passé ce tournage. Comment ça se passe d'ailleurs de travailler ensemble comme ça sur un film comme celui-ci. Donc, plein de petites choses croustillantes. Dans un instant, dans Bonjour la France, on a dit bonjour à Bérénice Bejo, on redit bonjour à la France et on se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe. Et on continuera évidemment à dérouler l'actualité du jour. A tout de suite sur Europe 1.
Bonjour la France, sur Europe 1. Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki.
Bonjour la France, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous avez bien raison. Bonjour la France du mardi, la France qui aime quand tout est permis. Vous savez, ici, on ne vous juge pas, soyez les bienvenus. Je suis Daphné Burki, autour de moi, évidemment, ils sont là pour donner l'autre actu du matin. Bruno Donnet aujourd'hui encore, Bertrand Chamerois, Mathilde Terrier, Elisabeth Asseyag et notre invité, on est très heureux de la recevoir, Bérénice Bejo, à l'occasion de la sortie du film Le Redoutable. Vous êtes avec nous aujourd'hui, on vous garde, on va dérouler l'actualité. Mais j'ai d'abord trois questions très étranges. Si vous arrivez à y répondre, bah vous êtes top dans l'actu what the fuck. Est-ce que vous avez un animal familier chez vous ? Est-ce que vous avez une cave ? Est-ce que vous connaissez bien vos voisins ? Et est-ce que vous aimez bien les requins ?
Alors, j'ai un chien,
ah.
Voilà, qui est assez vieux. Mm-hmm. Je n'ai pas de cave.
Ah.
Désolée, je connais très bien mes voisins. Et je n'ai pas de requin de vrai,
non.
Mais j'en ai des faux en Lego, des trucs comme ça.
Alors, on va voir si vous correspondez à cette info what the fuck de Bertrand Chamerois.
Bonjour la France.
What the fuck? Les infos qui changent le monde.
Oui, Bertrand souhaitait nous sensibiliser ce matin sur le trafic illégal d'animaux exotiques.
Oui, tout à fait, puisque j'ai longuement étudié la question et j'en arrive à cette conclusion. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même un bon moyen d'arrondir ses fins de mois.
C'est une super conclusion.
Un exemple concret, la revente sous le manteau d'un iguane du Galapagos vous permet quand même de rembourser facilement 2 semaines de séjour aux Pyrénées vacances de la Grande Motte.
Enfin...
Donc on va pas s'asseoir dessus.
Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, Bertrand. Vous avez bu, je pense,
non,
ce matin.
Non, je vous rassure, Daphné, ainsi que nos auditeurs, je suis un ami des animaux. C'était une mise en scène. J'ai essayé de me...
Bravo, merci.
Bravo.
Elle pas trop faire en général les comédiens quand on est devant une comédienne, une vraie actrice qui a été césarisée.
Oui, non mais je me fais pas d'illusions sur mon avenir dans la comédie. J'ai essayé de me projeter dans la tête de l'homme dont je vais vous parler. C'est un habitant de Lagrangeville dans l'état de New York aux États-Unis qui est ce qu'on appelle dans le jargon un sombre connard.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, d'insulter cet homme comme ça?
Eh ben alors, vous parliez de cave tout à l'heure. Eh bien, dans la cave de sa résidence, ce monsieur, là où Bruno Donnet entreposerait un Sporelex ou Blister depuis 82, Matou des caisses de Boulawan et Zaza ses esclaves sexuels, eh bien, cet homme cachait des requins dans sa cave.
Des requins vivants,
oui, des requins vivants dans une piscine de fortune de 4 mètres de diamètre, nagés ou plutôt trempés, vu la taille du bassin, 10 requins. Non, les gars, non, j'ai dit requin, pas rouquin. Excusez la régie.
Mon Dieu, pauvre Ed Sheeran.
Merci.
Non, les jeunes sur les rouquins, on a le droit?
Non, c'est
une coquille, c'est une faute de frappe.
Non, il a écrit requin, mais on n'a pas. Bon,
voilà.
Bref.
Donc, ce sont des policiers chargés d'une enquête sur le recel d'animaux sauvages qui ont découvert les squales âgés de 1 à 3 ans, 7 requins gris vivants, ainsi que 2 requins léopards, 1 requin marteau qui, eux, étaient malheureusement décédés. Et les survivants ont été transportés à l'aquarium de Long Island en très mauvaise santé.
Et alors, ce trafiquant?
Eh ben, il a disparu, bien sûr, puisqu'il n'avait pas envie de se faire choper par les autorités. Il est activement recherché puisqu'il appartiendrait à une très grosse filière illégale qui achemine et vend des animaux arrivés clandestinement aux USA.
Des requins dans une cave. Elisabeth, tout ça, c'est évidemment totalement interdit. Ouais. Est-ce qu'il faut une autorisation pour avoir un animal chez soi? Un vieux chien comme celui de Bérénice Béchaud.
Le vieux chien, je pense que ça va. En ce qui concerne les nacres...
Il doit être content. Il écoute la radio, le vieux chien. Et là, il a les boules. Il se dit, elle parle comme ça de moi à la radio. Comment s'appelle ce vieux chien, Bérénice Béchaud?
Elle s'appelle Mopi.
Mopi, nous sommes désolés.
Je l'ai depuis que j'ai 23 ans. C'est vraiment une vieille chienne.
Quelle race?
Si. C'est un mélange de braque et de pointer. Mais là, elle est vraiment vieille, vieille.
Mais 23 ans, c'est très rare. Bah oui.
Non, moi j'avais 23 ans.
Ah bah bon, d'accord, je croyais que le chien avait 23 ans. Je croyais que le chien.
Ça va pas,
mon Dieu. C'est incroyable.
C'est un chien immortel. J'ai du mal à exprimer, c'est pas de ta faute.
Bon, j'embrasse cette petite chienne quand
Mopi.
Même.
Hein. Okay. Alors, concernant les nacs, vous avez les nacs domestiques. Les nacs, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Et les non domestiques. Pour les domestiques, il y a les lapins nains, les furets, les belettes, les cochons d'Inde et certains putois. Les voisins vont être contents. Et quand on parle des non domestiques, ce sont essentiellement les serpents et les araignées, mais la liste est vaste, vous allez l'entendre. Et dans ces cas-là, un certificat de capacité est nécessaire, c'est la préfecture qui le délivre. On notera par exemple les hermines, les moufettes, les cygnes, les aigles ou la tortue radiée de Madagascar. Pour les mygales et les scorpions...
Ça ressemble à quoi une moufette?
La moufette, c'est pas comme dans le dessin animé, la copine de Pépé le putois.
Alors, oui. En fait, dans la vraie vie, les animaux sont pas des dessins animés.
Imaginez
à la maison.
Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de mettre moufette entêtée. Si tous ceux qui écoutent hashtag Bonjour la France pouvaient tout simplement poster une photo de moufette.
Tété, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on va être en top tweet, c'est-à-dire qu'on va mettre sur les réseaux sociaux des photos de moufette partout pour comprendre. Qui est la moufette?
Non, mais c'est ça où j'ai dit une énorme bêtise.
Non, bah
si
mais
je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Hein.
Alors, on continue
je termine
sur la moufette.
Pour les moufettes, pour les mygales et les scorpions, il faut un certificat et une autorisation d'ouverture d'établissement, hein, comme votre ami avec les requins. Ça peut prendre entre 6 mois et 10 ans. Idem pour les boas. Et n'oubliez pas, ça grandit. Un python réticulé aura besoin d'une pièce de 12 mètres carrés à l'âge adulte parce qu'il va peser jusqu'à 80 kilos.
Et voilà, c'était l'info en plus d'Elisabeth Assayag. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Bertrand. Vous êtes toujours dans Bonjour la France. Évidemment, notre invitée Bérénice Béchaud est là. On est très heureux, mais tout de suite, on écoute AC/DC, Highway to Hell, sur Europe 1.
Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride.
Jusqu'au bout, AC/DC Highway to Hell, à l'instant sur Europe 1. Et ben AC/DC d'ailleurs, ils sont réapparus il y a quelques jours. Le chanteur, en tout cas, Brian Johnson, il est remonté sur scène à l'invitation de Muse. C'était lors du Riding Festival en Grande-Bretagne. Et là, pour le moment, on remonte sur scène. Vous êtes bien dans Bonjour la France. Merci d'être avec nous. Merci au public. N'hésitez pas à nous rendre visite dans les studios d'Europe 1.
Bonjour la France, sur Europe 1, Daphné Burki.
Nous sommes là pour vous chaque jour, hein, quoi qu'il advienne, avec notre invitée du jour, la comédienne Bérénice Bejo, qui est à l'affiche du film Le Redoutable, une comédie réalisée par Michel Hazanavicius. C'est écrit d'ailleurs sur l'affiche. Mm-hmm. Pourquoi c'est écrit une comédie de Michel Hazanavicius? C'est important de le préciser.
Alors ça c'était évident dès le départ. On en avait parlé avec Michel et c'est vrai que c'est vraiment une comédie. Le public ne doit pas se tromper. C'est pas parce qu'on parle de Godard que c'est sérieux et que c'est chiant. C'est vraiment drôle. Et comme Michel Hazanavicius est connu aussi pour les OSS, c'était vraiment important de le rappeler que c'était le retour de Michel
sur une comédie. Bah oui. On rit, on pleure, on est ému, on est assez ébloui, je vous dis, parce qu'il y a des très très belles images, une très belle photo dans ce film. C'est un film d'amour, c'est un film d'humour, c'est un film d'humour, peut-être. On peut inventer un nouveau mot.
D'humour, c'est pas mal
d'humour.
Ça.
C'est de l'humour, oui. Ça vous va?
Une
ça
super à humour de Michel Hazanavicius.
En tout cas, c'est pas un biopic, c'est un moment de la vie de Jean-Luc Godard. Ça se passe en 67, quand il est donc au sommet de son art, quand il est le cinéaste le plus en vue de sa génération. Il fait tourner La femme qu'il aime, Anne Wierzemski, et c'est son livre, un an après, qui a inspiré donc le scénario de ce film. On va écouter un peu de son de cette bande-annonce.
Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même.
Vous avez pas peur que ça dégénère ?
Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là.
Fasciste de merde !
Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con.
Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi ? Peu importe, finalement. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du Redoutable.
Bérénice Bejo, dans ce film, vous jouez Michèle Rosier. C'est une intellectuelle proche du couple. Elle est scénariste, elle est réalisatrice à l'époque. Elle est d'ailleurs décédée en avril dernier. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de la rencontrer ?
Oui, je l'ai rencontrée parce que la Cinémathèque lui avait rendu hommage. Donc, j'ai rencontré quelques mois avant sa mort. Et c'était... Bon, c'est toujours rigolo de rencontrer quelqu'un que vous allez interpréter, mais après, c'est vrai qu'elle est pas... c'était un hommage qu'on lui rendait, le scénario était à peine écrit, bon, c'était pas un moment...
Il n'y a pas eu un échange transcendant.
Oui, voilà. Bon.
En tout cas, dans le film, la relation de la comédienne avec le réalisateur, donc l'histoire Godard-Anne Wierzemski, est-ce qu'elle résonne forcément un petit peu en vous? Justement, vous vivez la même histoire, finalement, en tout cas au départ, et avec moins d'années d'écart, d'ailleurs, aussi, puisque donc, vous êtes la femme du réalisateur Michel Hazanavicius.
Oui, et je tiens d'ailleurs à juste embrasser Anne Wierzemski si elle nous écoute et la remercier encore mille fois d'avoir accepté de donner les droits pour que Michel adapte ce livre parce qu'elle l'avait refusé à tout le monde. Et elle a accepté parce qu'elle a dit, Michel lui a dit, mais c'est dommage que vous refusiez parce que je trouve ça tellement drôle. Et du coup, Anne a dit, mais attendez, vous trouvez ça drôle ? Ah mais alors attendez, parce que si vous trouvez ça drôle, moi aussi je trouve ça très drôle, mais personne ne comprend. Et du coup, elle a dit, voyons-nous, et en 5 minutes, elle lui a vendu les droits. Donc je la remercie. Et c'est vrai que ça a de la résonance de toute manière. Michel a lu le livre, il avait oublié son livre, il a trouvé ce livre donc, dans un relais avant de prendre le train. Et il venait de vivre l'échec de The Search. Et le livre, enfin l'histoire de ce film commence avec Godard qui se prend des
gadins,
des râteaux dans la gueule. Et du coup, ça, il s'est senti comme légitime de pouvoir raconter cette histoire. Et oui, de toute manière, pour moi, c'est le film le plus réussi de Michel, le plus personnel, le plus brillant.
Ah ouais.
Parce que les dialogues sont très forts, très fins. Je trouve que il a très bien raconté le couple, l'amour d'un couple, la déchéance, le bouleversement de ne plus admirer la personne qu'on aime. Et voilà, oui, donc ça fait forcément écho à nous.
Mais oui, vous avez tourné dans tous les derniers films de votre mari. Il vous y oblige ou c'est vous qui lui demandez?
Comment ça se passe à la
non,
maison?
Non, il m'oblige pas du tout. D'ailleurs, j'ai failli ne pas faire celui-ci parce que je me disais le rôle est un second rôle et on va encore nous dire ah là là, vous travaillez toujours ensemble. Et puis je préparais une pièce de théâtre, c'était ma première fois, donc je me disais qu'est-ce que je fais, je dois choisir. Finalement, Michel m'a vraiment convaincue. Il m'a dit écoute, j'ai besoin de toi, c'est un second rôle mais très important et je veux que ce soit toi. Puis après, on s'est dit what the fuck, quoi. On aime travailler ensemble, on a le droit de travailler
mais
ensemble.
Mais bien sûr. Mais est-ce que... Oui.
Non, je veux juste savoir, est-ce que Jean-Luc Godard a vu le film?
Non, on lui a envoyé le scénario, on a reçu un petit papier qu'il avait, un accusé de réception. Je sais pas s'il l'a vu, je ne sais pas non plus s'il a lu le scénario. En tout cas, il l'a reçu. D'accord. Et on l'a invité.
Bon, d'accord. Très bien.
On a tout fait bien.
Bon, tout est carré
par
maintenant.
Par contre, Anne Wiazewski a vu le film. Ah. Et elle a été bouleversée, elle l'a vu 3-4 fois. Et elle a dit à Michel que Michel s'était approché tellement proche de son ressenti de Godard qu'elle en était vraiment bouleversée.
Ça, c'est chouette.
Quel beau compliment.
Ça, c'est chouette d'avoir ce genre de retour.
Ce qui est bien avec ce film, c'est que j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'ai jamais vu de film de Jean-Luc Godard et j'avais peur d'être un peu perdu le film. Et pas du tout, on découvre du coup un personnage que je connaissais pas forcément. Ouais. Le film, l'esthétique est magnifique et ça donne envie de découvrir pour ceux qui le connaissent pas sa filmographie.
Donc, oui, mais ça, c'est pas destiné à une génération.
Mais c'est bien de le dire parce que vraiment, vous ne connaissez pas Godard, vous aimez Godard, vous n'aimez pas Godard. Ce film, c'est une histoire d'amour, c'est un couple et on peut tous s'identifier. Puis je pense que pour les jeunes, comme c'est tourner parfois un peu comme Godard pouvait le faire, ça donne envie d'aller voir son cinéma, de se rendre compte qu'en fait c'est un cinéaste extrêmement intéressant, très ludique, très joueur, et donc ça rend hommage à Godard aussi. Et
pour le découvrir, en tout cas, c'est tout à fait adapté pour découvrir le cinéma de Godard, le personnage. Et alors pendant le tournage, parce qu'on se demandait quand même, tourner avec son mari, c'est quand même étrange. Est-ce qu'il est plus exigeant avec vous qu'avec les autres comédiens? Est-ce qu'il est plus dur?
Non, je crois pas. Moi, je suis plus en panique au départ parce que je veux tellement lui faire plaisir. Je sais tellement ce qu'il veut que j'ai une petite heure d'adaptation, de stress. ça, c'est sûr. Mais lui,
il paraît que vous vous étiez déjà fâché sur le tournage de The Artist pendant le tournage, justement.
Ouais, il était 4h du matin. On avait toujours pas tourné notre scène avec Jean. J'en pouvais plus. On allait faire des gros plans. J'ai fait mon actrice, quoi. Mais du coup, moi, il est 4h du matin. Voilà, mais ma scène préférée du film. C'est la scène où Jean et moi, on tourne sans arrêt la même scène. On l'a tournée à 4h du matin. J'adore cette scène. Et à un moment donné, je tirais tout le temps la gueule. Michel me dit, tu vas tirer la gueule longtemps parce que là, t'es quand même en gros plan, quoi. Et du coup, je me suis décontractée.
Voilà. Bon, merci beaucoup, Bérénice Béjot, de nous raconter les coulisses de ce film. On va continuer à en parler. Évidemment, on va dérouler toute l'actualité du jour. Surtout, ne bougez pas. Et puis, Didier Porte va venir vous dresser le portrait. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, dans Bonjour la France.
Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki. Bonjour la France sur Europe 1.
Vous êtes bien dans Bonjour la France avec aujourd'hui Bruno Denet, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assaya, Didier Porte qui est en train de pointer le bout de son nez et notre invitée Bérénice Béjot, notre invitée du jour qui est à l'affiche du film Le Redoutable. On l'a compris, l'intrigue du film se passe au cœur de la Nouvelle Vague. Le cinéma de la Nouvelle Vague était politique, le cinéma de la Nouvelle Vague il était révolutionnaire, il était musical avec des bandes son formidables. Alors on voulait rendre hommage aux musiques justement de la Nouvelle Vague avec un petit blind test, ok? Ouais. Je vous passe une musique, vous me dites le film, le réalisateur, le compositeur du morceau, ok, c'est super difficile.
Oui.
Si vous vous plantez, je vous en voudrais pas, c'est pas très grave, il faut quand même aller voir le film Le Redoutable qui est une très 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 jolie film de Michel Hazanavicius. On écoute la première musique.
Je l'ai pas vu, mais
le mépris.
Le mépris. Quand même.
C'est beau, hein.
Et mes fesses.
Oui, je les ai pas vues, vos fesses, Bertrand. Mais elles sont certainement...
Dodu et talqué.
Charmante, talqué. C'est facile, évidemment, Georges Delerue, le thème du mépris de Jean-Luc Godard, hyper fastoche. Une autre musique.
Non.
Mais... c'est plus dur, hein. C'est plus dur. Les Rolling Stones, Sympathy for the Devil, du film One Plus One de Godard. Le film raconte en quelque sorte le making-of justement de ce morceau maléfique et légendaire des Rolling Stones. Et on y voit notamment la déchéance donc de Brian Jones. Bon, c'était difficile, je vous l'avais dit.
Ça, c'est la période dont parlait Bérénice Béjot.
Exactement,
qui est
la période un peu plus conceptuelle,
déjà.
Un peu plus expérimentale. On y va, allez, easy.
Julie Jim.
Oui, Elisabeth Assayag. C'est bon. Georges Delerue de nouveau. Le thème des vacances de Jules et Jim de François Truffaut. Une dernière musique dans ce blind test. Nouvelle vague, écoutez. J'adore.
Dans le public.
C'est la nouvelle vague, hein.
Qui a une réponse?
L'américaine.
Écoutez, mettez fort chez vous, écoutez quelques notes.
L'américaine?
Oui.
Ah bah voilà, très fort.
Bravo.
Le merveilleux.
Bravo, bravo. Georges Delerue, pour François Truffaut, de nouveau La Nuit Américaine. C'est beau. Deux films de Truffaut, deux de Godard. François Truffaut versus Jean-Luc Godard. C'est un peu la version cinématographique des Beatles contre les Stones. Hein. Qui est plutôt Truffaut, qui est plutôt Godard? On lève la main, Truffaut.
On peut être les deux.
Les deux.
On est les deux.
Truffaut dans le public. Et qui est plutôt Godard? Ah, c'est moitié-moitié. Très bien. Bon, voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de nouveau de les regarder, ces films, de les apprécier. En tout cas, voilà, la bande-son aussi du Redoutable. Et ça, c'est à partir de mercredi, évidemment, dans les salles. On va continuer à parler de ce film, Bérénice Bejo et notre invité. Mais pour le moment, on accueille celui ici qui est un petit peu chez lui, c'est Didier Porte. Il est là tous les mardis, Bérénice. Tous les mardis, il se penché sur vous, Bérénice. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Didier Porte.
Mademoiselle Bejo, enchantée. Je suis Didier Porte, collaborateur artistique à Bonjour la France.
Oui.
Et chargé de rédiger votre portrait. Oui, c'est ce qu'il y a de marqué sur ma fiche de paye, collaborateur artistique. Déjà, collaborateur, c'est agréable. Alors bien sûr, étant né en 1958, je ne suis pas en cause personnellement, mais vis-à-vis de mes grands-parents, je trouve ça limite. D'abord, j'aimerais bien savoir qui nous a dénoncés. Et puis entre nous, ça va bientôt faire 75 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée, on pourrait peut-être passer à autre chose. Et s'abstenir de marquer « collaborateur » en gros caractères sur les fiches de paye des chroniqueurs, sous prétexte que leurs grands-parents, cultivateurs de leur état, ont vendu quelques poulets à des soldats de la Wehrmacht pendant l'occupation.
Voilà.
Surtout que les poulets que Papy Nous Voilà vendait aux Allemands, oui, c'est comme ça que ses voisins l'appelaient, Papy Nous Voilà, je sais pas pourquoi. Les poulets qu'il vendait aux Allemands, donc, n'étaient pas les plus charnus de sa basse-cour clandestine. Au contraire, hein, c'était des poulets tout malingres, tout rachitiques, n'ayant plus que les plumes sur les os. Le première classe de la Wehrmacht, Karl Lagerfeld, aurait été stationné dans les environs. Il les aurait fait défiler à la Fashion Week, ces poulets. Poulets que mon grand-père vendait aux Allemands au prix fort, hein, presque aussi cher qu'aux résistants. Ah, il les faisait raquer, les Fridolins, papy maréchal. Oui, c'est comme ça que ses autres voisins l'avaient surnommé, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc, avant que vous ne m'interrompiez, mademoiselle Bejo, je disais...
Oui, enfin.
Je disais que lire collaborateur en tête de sa fiche de paye, c'est déjà moyennement plaisant, mais collaborateur artistique, là, ça devient carrément injurieux. Hein. On sait bien ce que recouvre le mot artistique pour les gens qui rédigent des fiches de paye. Gugus, bon à rien, pour ne pas dire gros branleur, parasite, va de la gueule, intermittent du spectacle, mythomane, feignasse, pardon, fainéant, et j'en oublie. Par conséquent, je m'adresse à la production, je ne le dirai pas deux fois, essayez d'avoir un minimum de respect pour votre personnel. Non, c'est vrai. Bon, il n'y a pas marqué Modigliani, là.
Oui. Voilà, hein.
Artistique, je t'en foutrais. Voilà. Je voulais juste procéder à cette brève mise au point avant de démarrer votre portrait.
Ah, quand même. Bon.
On y va, chère madame Bejo. Par contre, je compte sur vous pour faire preuve d'un minimum d'humilité au fur et à mesure du dit portrait. Hein. Ce n'est pas parce que je parle de vous que ça doit vous monter à la tête. Dites-vous que c'est l'exercice qu'il exige. Hein. Je dois faire votre portrait, donc je parle de vous. Je n'ai pas le choix.
Mais il n'est pas possible.
Moi, j'avais demandé à ce qu'on invite Mouloudji, mais ils ne veulent pas. Donc, merci d'avance de nous épargner les moi-je. Hein. Considérez que vous avez épuisé votre quota depuis le début de mon papier. Ah, le narcissisme des actrices de cinéma, c'est quelque chose. Hein. Je comprends que vous ayez le melon. Prix d'interprétation à Cannes, César du meilleur rôle féminin, c'est du lourd. On ne s'étonnera pas que vos chevilles aient la même circonférence que celle de Teddy Riner après 25 heures d'avion sans escale en classe économique. Déjà, on peut se poser la question, comment ne pas choper la pastèque quand on se prénomme Bérénice, le titre d'une tragédie de Racine, rien que ça, très chic. Hein. Alors que mon prénom à moi, Didier, c'est le nom d'un clébard dans un film comique. Croyez-moi, ça calme. Bérénice, prénom d'origine macédonienne qui signifie « celle qui porte la victoire ». Et allons-y. Alors que Didier est le nom d'un empereur romain, Didius Julianus, certes, à première vue, ça flambe bien sa race également, sauf que l'empereur romain en question, Didius Julianus, donc a pour particularité d'avoir exercé ses fonctions très précisément du 28 mars au 1er juin de l'année 193. Oh. Soit un règne de 2 mois et 3 jours tout mouillé.
C'est pas possible.
Le 1er juin 193, il a été déposé et décapité par le général Septime Sévère, le bien nommé pour le coup. Et il paraît que ses dernières paroles à Didius auraient été « Mais pourquoi je n'ai assassiné personne ?» Authentique. Oh le naze. Mais c'est justement parce que t'as assassiné personne que tu t'es fait débarquer au bout de 2 mois, oui, pauvre truffe. Oui. Fallait pas faire empereur, fallait prendre ta carte au modem, couille molle.
Non mais bon, Didier, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir quand même conclure ce très joli portrait que vous venez d'esquisser. On vient d'apprendre beaucoup de choses sur Bérénice Béjot.
Voilà, la censure est de retour. Mademoiselle Anastasie Burki dégaine sa paire de ciseaux liberticides et me coupe la parole au moment précis où j'allais évoquer le fait que vos parents ont fui la dictature argentine, ma chère Bérénice. Mais ça, c'est de la politique et tous les moyens sont bons pour m'empêcher d'en parler. Vous avez gagné, vous n'entendrez plus parler de moi au moins jusqu'à mardi. Messieurs les censeurs.
Et voilà, Didier Portier. Il n'est pas content. Il n'a pas fini son papier. Didier Portier, à un moment donné, il va falloir le faire, le portrait de notre invité. Ça va pas du tout. Bon, merci beaucoup.
C'était violent. Hein.
Ça va? Ça se passe bien?
Là, mon égo, il en a pris un coup. Moi.
Je peux vous dire que Bérénice Béjot a de ravissantes petites chevilles, puisqu'on les aperçoit dans le film Le Redoutable. Elle n'a absolument pas ni de pastèque, ni de melon. Bien au contraire, quoique c'est bon pour la santé. Mais on se retrouve dans un instant dans Bonjour la France sur Europe 1 avec Bérénice Béjot, bien évidemment.
Bonjour la France. Sur Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki.
Il est 11h41, vous écoutez bien Bonjour la France. Dans un instant, on va jouer avec l'actualité, notre invitée Bérénice Béjot. Mais pour le moment, tout simplement, nous sommes un peu flemmards. On va arrêter de poser des questions et ce sont des personnalités célèbres qui vont vous poser certaines questions, des questions presque cultes. Entre autres, Bernard Pivot, le présentateur d'Apostrophe, a une question à vous poser, Bérénice Béjot.
De tous les mots de la langue française, quel est celui que vous préférez ?
Est-ce que vous avez un mot préféré ?
Oh la vache, Bernard. Bernard, c'est ça mon mot préféré.
C'est mon prénom préféré. C'est pas facile.
Non, je sais pas.
En général, c'est le premier mot qui vous vient en tête.
Fabuleux.
Fabuleux.
Voilà. Fabuleux, c'est...
Il faut que la vie soit fabuleuse.
Oui, fabuleux, fable. J'aime bien. Enfin, même si ça ne vient pas peut-être si. Je
si, pas, ça m'intéresse ça, que vous parliez de fable parce que vous m'avez amené le fabuleux voyage d'Arwen, le tour du monde musical avec Lyra raconté par Bérénice Béjot. Moi, je suis addict justement aux histoires racontées qu'on peut écouter avec ses enfants. Enfin, j'ai toujours eu ça et donc j'en offre souvent à mes enfants. Je sais pas, Bruno aussi, il adore ça.
Tout le temps, moi.
Et donc, c'est sympa de nous avoir amené ça. C'est un bon conseil. Qu'est-ce que c'est que ce projet que je montre sur le live d'Europe1.fr.
En fait, je suis marraine de cette association qui s'appelle Constellation et c'est une jeune fille, Charlotte Courtois, qui en est la directrice. Et elle est partie du principe qu'il fallait que les enfants se rendre compte que même si on venait de cultures différentes, finalement, on pouvait s'entendre. Donc, elle a pris des enfants d'Inde, de Tunisie et de Bretagne, elle les a fait se rencontrer. Mmh. Et tous ces enfants se sont rendus compte que même s'ils avaient une culture différente, finalement, ils ne s'entendaient pas si mal. Et donc, ce livre raconte l'histoire d'une petite fille qui va voyager dans ces trois endroits. Elle va rencontrer des musiciens qui font des musiques traditionnelles. Elle va essayer de faire en sorte que les trois, Tunisie, Inde et Breton, jouent ensemble. C'est la cacophonie. Et en fait, quand tout le monde s'entend, s'écoute, apprend à se connaître, finalement, ça fait une magnifique musique. Et Lyra est donc...
On vous le conseille. On va mettre évidemment le lien sur le compte de Europe 1 et sur le compte Twitter de Bonjour la France. Magnifique projet.
Merci d'en avoir parlé.
Ah non, mais avec joie, j'adore ça, moi. Alors, une autre question, c'est la romancière Marguerite Duras qui vous pose une question.
Est-ce que tu sais toujours la différence entre ce que tu as rêvé et ce que tu n'as pas rêvé ?
Est-ce que vous faites toujours la différence entre ce que vous avez rêvé et ce que vous n'avez pas encore rêvé ?
Non.
Vous avez une vie, on dirait un rêve de loin, c'est vrai. C'est un destin incroyable.
J'ai rêvé, je crois que j'ai la chance de vivre la vie dont j'ai rêvé.
Voilà.
Ouais.
C'est quoi le prochain rêve à réaliser ?
Bah, que je continue à rêver, en fait, enfin, de continuer à vivre mon rêve, enfin, jusqu'à la fin. Non, mais ça a l'air un peu gnangnan et un peu bête, mais j'ai eu beaucoup de chance et j'ai cultivé cette chance aussi, enfin, parce que ça demande quand même du travail.
Oui, parce que c'est pas le tout de rêver d'être comédienne, en fait. Après, pour
il faut savoir aussi refuser des choses. Je pense qu'une carrière, elle se construit aussi quand vous restez honnête avec vous-même et que vous acceptez pas absolument tout. Donc voilà, il y a eu des moments bien plus compliqués que d'autres.
Alors, vous allez continuer ce rêve. Et je ne sais pas si cette question est rêvée, mais voici une question un petit peu décalée. Hein. Elle est signée de l'humoriste Raphaël Mesrahi.
Alors, si votre copain était un dessert, ce serait plutôt un mystère, une religieuse ou un gland?
Voilà. Alors, on parle donc de Michel Hazanavicius. Si Michel Hazanavicius était un dessert, ce serait lequel?
C'est quoi un blanc?
Un gland.
Un gland.
Un gland, vous vous souvenez?
Ah, mais ce serait forcément un gland.
C'est vert avec
oui,
le.
Oui, mais ce serait un gland. Ce serait un gland.
Ah, c'est
génial.
Bien crémeux. Voilà. Formidable. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On va se retrouver dans un instant avec Bérénice Béjot. Pour le moment, on va écouter Texas. Let's work it out sur Europe 1. Let's work it out à l'instant sur Europe 1, premier extrait du dernier album donc de Charline Spiteri et de son groupe qui seront en tournée en France, voilà, en novembre prochain. Texas sera en tournée en France, mais pour le moment, on est dans Bonjour la France et vous êtes bien sur Europe 1.
Europe 1, Bonjour la France.
Avec toute l'équipe et notre invitée Bérénice Béjot qui est venue nous rendre visite pour le film Le Redoutable qui sort mercredi en salle et demain, parce que voilà, vous avez compris, Europe 1 aime beaucoup ce film. Dans Melting Pop avec Patrick Cohen, il y aura donc Michel Hazanavicius et Louis Garrel qui seront les invités. Ce sera de 9h à 9h30 sur Europe 1. Alors là, c'est l'heure un peu de notre prescription. On est comme ça dans cette émission. C'est un sujet un peu pop whiz. Là, aujourd'hui, c'est le docteur Donnet qui s'y colle.
Absolument.
Bruno, vous vouliez nous recommander ce matin la réédition d'un album qui a bercé vos années lycée.
She'll snatch your money, the queen is dead for.
Alors le groupe que vous entendez derrière moi, Daphné, vous l'avez reconnu, il s'appelle les Smiths. Les Smiths, c'est un peu les Dupont des Anglais. Et pourtant, les Smiths sont des garçons qui n'ont rien, mais alors strictement rien, de banal. L'un de leurs meilleurs albums s'appelle The Queen is Dead. C'est le titre qu'on vient d'entendre à l'instant. Et figurez-vous qu'il va être réédité en version grand luxe. Dites donc, ce sera début octobre, c'est-à-dire quasiment demain. Voilà pourquoi j'ai choisi cette... Enfin, j'ai plutôt saisi cette occasion pour vous en remettre un peu des Smiths dans les feuilles. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Car les Smiths, c'est la voix de Morrissey, la guitare de Johnny Marr. Ce sont des titres un peu légers, comme celui-ci qui dit...
Certaines filles sont plus grosses que les autres. Oui, c'est léger.
Vous êtes formidable. Mais c'est aussi une revisite de ce qu'on appelait, il y a 30 ans, la New Wave. En fait, c'est bien du rock, hein, c'est pas très compliqué. Mais du rock qui était aussi capable de produire des textes fameux et parfois engagés. Big Mouth Strikes Again, la grande gueule frappe encore. Voici entre autres ce qu'il chantait dans cet album. Un album qui, vous l'avez compris, que je vous recommande très chaudement.
On l'a compris. On l'écoute encore un peu, s'il vous plaît. Les Smiths, alors l'album Deluxe, réédité Deluxe, qui sortira en octobre. Merci beaucoup Bruno Denet.
Vous pourrez le mettre dans votre carte
très,
bleue.
C'est très bon d'entendre ça ce matin dans Bonjour la France sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Bérénice Bejo et l'actualité. On va jouer tous ensemble.
Bonjour la France sur Europe 1. Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki.
Oui, vous êtes dans Bonjour la France. Toute l'équipe est là. Ils sont en train de s'échauffer. Vous pouvez commencer à faire des Et il va falloir donner les réponses le plus rapidement possible. Il y a deux équipes autour de moi. Ils ne le savent même pas parce que c'est bientôt la fin de l'émission et on ne peut pas se quitter comme ça. On va quizer, on va jouer avec l'actualité, des infos politiques, des infos people, des infos internationales, peu importe. J'ai devant moi deux équipes. À ma gauche, Bruno Denet, Mathilde Terrier, Bérénice Bejo. C'est l'équipe des redoutables, ok? Voilà. À ma droite, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag. Bon, c'est l'équipe des deux et des douteux. Donc, voilà.
On a toujours les noms pourris.
Ouais,
hein,
nous, c'est toujours les noms un peu bizarres.
Non, mais bon, vous êtes un peu solo là. Hein. Mm-hmm. Alors, chez vous, vous pouvez jouer dans le public également, mais je sais que vous êtes un peu un mauvais joueur quelquefois. Vous aimez avoir les points. Bon, vous pouvez nous souffler les mauvaises réponses aussi. Tout a un lien avec l'actualité. Attention, je commence par une question pour les redoutables. Question numéro 1, un indice en musique. Écoutez. Claude François, les Magnolias, ça donne envie de se déchaîner, mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre sur les Magnolias? J'aime voir
bon
la peur.
La santé.
Si vous pouvez voir le live sur
Romain.fr,
la peur dans les visages.
Ils vivent plus vieux que Claude
François.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Bruno Denet.
Je ne sais pas, j'adore
c'est pas
les
facile,
Magnolias.
Hein. C'est l'actualité du jour, hein. faut être connecté, faut être au point. Alors attention, une actualité Magnolia. Je vous donne la réponse. Une équipe de botanistes internationales a étudié des fossiles. Ils ont examiné 800 espèces différentes et viennent d'établir que la toute première fleur, la toute première qui ressemblerait à un magnolia. Voilà, toutes les autres fleurs descendent donc du magnolia qui est donc vieux de 140 millions d'années. C'est beaucoup plus vieux que Claude François.
Oui, Bruno avait raison,
en effet. Je sais pas comment ils font. Moi, à chaque fois que j'ai un magnolia, ils crèvent. Enfin, je sais pas garder une plante. J'ai pas du tout la main verte. Alors, une deuxième question. C'est pas grave. Vous avez perdu le point. On s'en fiche. Je vous mets un deuxième son. Pas très agréable. Écoutez. Vous connaissez ce bruit, on l'a déjà écouté.
Ouais.
C'est le bruit d'une craie.
C'est Bertrand dans Fort Boyard.
C'est le cri de Bertrand. Non, c'est le bruit d'une craie qui grince sur un tableau noir. Qui a fait grincer les dents des gendarmes sur les tableaux noirs pour les douteux? Une question ?
Allez, Bertrand, merci. Qui a fait grincer les dents rien, sur moi. Les...
Vous êtes perdu.
Ah,
hein.
Bah là, je suis complètement largué.
On se tient la glotte.
Ah ouais.
Allez, tenez-vous la glotte, Bertrand.
Mais je n'en sais rien.
Il
je
me
n'en...
regarde en disant, mais t'as la réponse.
Mais
c'est
non,
pas
mais je sais pas, il y a eu une affaire des avec les gendarmes.
Il y a eu une affaire de tableau noir avec des gendarmes.
Du recel.
Bien, Bertrand, vous voyez quand vous réfléchissez.
Voilà. Donc des gens ont volé des tableaux noirs.
Oui, ils ont volé des tableaux noirs.
Quelle drôle d'idée.
Pourquoi est-ce qu'ils auraient volé des tableaux noirs? En fait, ils n'ont pas vraiment volé des tableaux noirs. Je vous raconte. On en a parlé la semaine dernière. La disparition criminelle, oui. Il me semble, des tableaux noirs en France, dans les salles de classe. Eh bien, 6 professeurs d'un collège de Gaillac, qu'on salue, bonjour le Sud-Ouest, font l'objet d'un objet judiciaire parce que 6 de ces professeurs ont appris donc que leur tableau noir traditionnel allait être détruit, remplacé par des tableaux tout blancs. Ils ont donc essayé simplement de les enlever, les tableaux noirs, pour les conserver, les préserver. Mais la gendarmerie a déboulé. Non, mais c'est complètement fou. Ils sont intervenus. Une plainte pour effraction, intrusion et vol a été déposée contre ces enseignants qui voulaient préserver leur tableau noir.
C'était des gendarmes sobres.
Préserver leur tableau noir.
Mais je ne sais pas. Le rectorat, en tout cas, a ouvert une procédure contre eux et tout simplement parce qu'ils ont voulu sauvegarder. Donc ces tableaux, je vous rappelle qu'ils sont détruits maintenant. À présent, ces tableaux noirs. Je ne vais pas lancer la musique triste des écrans.
On aurait envie.
Mais j'aurais envie de
vous dire non.
Alors bon, s'il vous plaît. Non, mais ces tableaux noirs, ne les laissez pas comme ça.
Après les télés.
Après les téléviseurs, les tableaux noirs.
Après les plutôt les théâtres.
Ils ont le droit de rester accrochés dans nos salles de classe. Finalement, ils prennent pas beaucoup de place, ce petit écran noir.
Chien
c'est l'ami
de
non, de en nos émail, enfants. En émail, Daphné.
Sans déconner. Mis à part ça, moi j'ai la chiale, mais il y a une pétition, donc je vous la donne cette pétition. Sur change.org, sur le site en ligne, les tableaux noirs et les professeurs. Allez la signer, laissez ces tableaux noirs tranquilles, nom de Dieu. Alors attention, vous avez gagné un demi-point. Une dernière question.
Ok, ça marche.
Ouais, un demi-point.
Je prends.
Une dernière question, on y va. Un son. Un son que vous avez peut-être déjà entendu.
Le journal du Havre.
Oui. C'est une musique de film X. Selon les rumeurs, pourquoi on va parler de X aujourd'hui ?
Il y a une étude qui est sortie.
Sur les rayons X.
Non. Ça alors ça fait quoi ?
Sur le plus on fait l'amour, plus on vit vieux.
Ah, ça c'est vrai. C'est très bon pour le cœur. Très bon pour le cœur, mais pas du tout. La réponse.
Le X va passer à 15 points au Scrabble.
Non, c'est le nouvel iPhone qui devrait être lancé demain aux États-Unis. Il va y avoir logiquement un iPhone 8, mais selon les rumeurs, le produit phare de ce lancement devrait être l'iPhone X, mais pas X. En fait, le X se lit l'iPhone 10, le chiffre romain.
Comment tu le retrouves ?
Bah ouais, c'est compliqué.
Tiré par la cheveux, hein.
Bon, c'est pas grave. Juste pour vous dire que, en tout cas, il n'y aura plus de bouton Home, le gros bouton en bas de l'écran. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va fonctionner. Mais en revanche, Mathieu Noël, on sait comment il fonctionne. Déjà, en général, il nous dit bonjour.
Bonjour, Daphné.
Voilà, voyez.
Ça
je
va
sais comment il fonctionne.
Écoutez, rien ne se pose à midi arrive. Au programme aujourd'hui, réforme de l'université, JO de 2024. Et puis, cette bonne nouvelle, on respire. Couscous, le chien de Mouloud Achour n'est pas mort. Ce qui permet à Eva de ne pas être virée. En tout cas, pas
super,
tout de suite.
C'est une super nouvelle. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Nous, la bonne nouvelle, c'est que Redoutable sort mercredi en salle. Évidemment, il faut aller le voir. Bérénice Bejo joue à l'intérieur de ce film. Elle est merveilleuse. Elle est dans notre studio. Mais là, on est obligé de lui dire au revoir. On n'a pas le droit de la séquestrer. C'est bien dommage. Demain, il y aura le reste de l'équipe du Redoutable qui sera dans Melting Pop de Patrick Cohen. On vous rend l'antenne. Sachez qu'on est là tous les matins de 10h à midi dans Bonjour la France. Merci de nous écouter.